savez-vous parler aux enfants ou est-ce que vous êtes, comme moi, complètement à côté de la plaque, comme dans une langue étrangère? Est-ce que vous cherchez vos mots? Est-ce que vous manquez de vocabulaire? Est-ce que vous provoquez à chaque fois l'un de ces moments un peu gênants qui ne trompent ni vous, ni eux, ni leurs parents? Ce sont des scènes que je trouve à la fois drôles et touchantes, cet effort de communication qui revient à essayer par tous les moyens de retrouver l'enfant qu'on était. On se dit que ça doit pas être bien sorcier, vous savez, après tout, enfant, on l'a été. Alors on leur pose des questions maladroites, on singe leur discours, on s'abaisse, on se baisse même littéralement pour se mettre à leur niveau, et toujours avec ce même résultat consternant. C'est pas évident de parler aux enfants. Je me souviens d'avoir dévoré quand j'étais petit les livres de la comtesse de Ségur et d'avoir mis beaucoup de temps à le justifier, y compris à moi-même. Cette condescendance, cette domination, cette éducation maquillée en divertissement, ça me paraissait fou de m'être laissé pris au piège des petites filles modèles, des Denigos et des bons enfants, jusqu'à ce que je m'y replonge récemment et que m'apparaisse une évidence que j'avais complètement oubliée. Chez la comtesse de Ségur, presque tout est dialogue. Comme au théâtre, on y parle tout le temps. Et même quand on est tout seul, on se parle à soi-même. Ce qui me frappe, c'est la façon dont ces livres répondent par du langage au silence embarrassé entre l'adulte et l'enfant. Pas le temps de se poser la question, on parle tout le temps.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui sait parler aux enfants. Il y a bientôt 33 ans, avec Chien Bleu, elle opérait une petite révolution dans le monde de la littérature jeunesse. Aujourd'hui, jour d'ouverture du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, paraît son nouveau livre, Le Fils du Père Noël est kidnappé, à l'École des Loisirs. Bonjour Nadja.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment on parle à un enfant, tiens? Vous avez fini par le savoir.
Enfin, moi j'ai l'impression, hein, j'ai des idées sur la question, c'est-à-dire que je parle aux enfants comme je parle aux adultes. Exactement.
Tout simplement.
Il n'y a pas de différence. De la même façon que je pense que les livres pour enfants, c'est le même... la même relation. Il faut écrire pour les enfants comme aussi bien qu'on écrit pour les adultes.
Et comment vous parlez à vous quand vous étiez petite, vous dont la mère, Olga Lecaille, était aussi autrice de livres pour enfants et peintre?
Oui, comment elle me parlait? C'était en russe d'abord. Et puis, il y avait une relation très très naturelle entre nous.
On vous parlait aussi par le biais du dessin, par le biais de la peinture?
Oui, vraiment. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on était quatre enfants. Et on n'allait pas à l'école, on dessinait beaucoup. Et on avait tout le matériel à notre portée. Et elle nous apprenait, voilà, comment on fait la peinture à l'huile, comment on fait de la gouache, comment on fait de l'aquarelle.
En fait, le dessin, quel lieu de dialogue est-ce que c'est entre l'enfant et l'adulte, Nadja?
C'est une façon de projeter une image commune dont on peut parler.
Qu'est-ce que ça raconte, un dessin d'enfant?
Un dessin d'enfant, c'est quelque chose de très... d'être très proche de la vérité, c'est-à-dire que c'est comme l'enfant est peut-être plus proche de son inconscient que l'adulte, parce qu'il n'est pas encore abîmé par toutes les idées, etc. Son dessin décrit plus directement ses états d'âme, ses envies, ses désirs et ses joies et ses peines.
C'est un langage pour vous, le dessin?
Oui, tout à fait.
Vous dessinez quoi quand vous étiez petite?
Moi, je dessinais principalement des princesses avec des princes charmants à cheval qui les sauvaient. Et aussi, j'ai eu une grande période religieuse. J'ai fait des grands chemins de croix avec tous les saints. Jésus me fendait le cœur. Enfin, ce qui me fendait le cœur, c'est que la Vierge Marie savait qu'il allait mourir. Ça, c'est un truc incontournable.
Et qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'apprendre en regardant votre mère travailler?
Son enseignement, c'était pas un enseignement, c'était plutôt mimétique. C'est-à-dire, c'est vraiment les neurones miroirs qui sont entrés en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire que elle peignait beaucoup, dessinait beaucoup, et ça se faisait, je sais pas, comme on apprend à marcher, quoi.
Quand vous pensez à ces peintures, notamment, quelles images, quelles couleurs vous reviennent immédiatement à l'esprit, Nadja?
Elle a fait beaucoup de portraits de nous, enfants, et c'était des couleurs assez, assez gaies et une façon de peindre assez réaliste.
Et qu'est-ce qu'elle utilisait comme peinture, justement? De la gouache, de l'acrylique, de l'huile?
Surtout de l'huile.
Je vous pose la question, est-ce que l'utilisation de la peinture dans vos dessins en pleine page, c'est devenu votre marque de fabrique pour beaucoup de lecteurs, de Chien bleu au fil d'Ariane, Récit d'une trahison, l'un de vos derniers livres en lice pour le prochain Fauve d'or à Angoulême. Quand est-ce que vous avez compris que la peinture serait votre principal mode d'expression, Nadja?
En fait, c'était... D'abord, ça, je l'ai compris assez tôt, et je voulais vraiment être peintre. C'était mon but. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai peint toute ma vie, y compris très jeune. Et, excusez-moi.
Je vous en prie.
À l'époque où j'ai fait Chien bleu, je peignais énormément chez moi. Et en fait, je m'étais dit, c'est avec la peinture que je traduis le mieux les choses qui m'habitent. Et j'ai peint ce livre comme je faisais de la peinture à l'époque, c'est-à-dire de façon assez expressionniste, ouais. Avec des couleurs franches et voilà, il y avait un lien tout à fait naturel entre les deux.
Et quelle matière est-ce que c'est la peinture, pour vous la gouache plus particulièrement? Parce que vous avez aussi fait beaucoup d'aquarelles, comme dans la série des Momo, le petit dinosaure alligator.
Oui, c'est l'aquarelle est quelque chose de plus, comment dire, intimiste. Enfin, c'est des petits dessins, le geste est différent. La gouache, ce qui est formidable, c'est que c'est une matière vivante qui n'est jamais sèche. Ouais. Contrairement à la gouache acrylique qui, une fois sèche, vous ne pouvez pas intervenir dessus. Alors que la gouache, c'est infiniment remodelable. Et en plus, j'adore ce côté un peu mat de la gouache qui est très beau. Où en même temps, toutes les couleurs sont très très fortes. La pigmentation ressort une fois que le dessin est sec.
Vous parliez de Chien bleu, Nadja, livre aussi important pour moi, notamment. Composer un livre pour enfants à partir de peintures en pleine page. C'était quelque chose de nouveau à l'époque?
Je dois dire, pour être honnête, que c'est mon éditeur de l'époque, Arthur Hupschwin, qui m'a guidé vers ce pleine page. Parce que j'avais commencé à faire des livres pour enfants, juste genre 5 minutes avant, quoi, genre avant Chien bleu. Et j'étais allée de mes petites aquarelles et des dessins. C'est difficile quand on commence à faire des livres pour enfants. J'ai remarqué ça chez les gens qui veulent en faire. C'est que on n'imagine pas la page. On imagine le dessin comme on fait d'habitude sur son bureau. Et là, il m'a vraiment ouvert la voie en disant. Mais prends la page entièrement.
Vous avez dit oui tout de suite.
Et ça m'a énormément plu.
Pourquoi les enfants sont si sensibles à la peinture, en fin de compte?
Je crois que c'est justement parce que c'est un passage direct des émotions. C'est très charnel. Et les enfants s'y entendent en charnel. Et je pense que c'est moins abstrait qu'un trait... très pur et coloré.
Je suppose que vous vous interrogez parfois sur la spécificité du regard de l'enfant, non?
Oui, je m'interroge toujours, d'ailleurs, de la même façon que je m'interroge sur la spécificité du regard d'adulte. Enfin, je suis toujours émerveillée de cette possibilité qu'on a de transformer une image en imaginaire.
Alors, comment vous regardez le monde, vous? Toujours avec le regard de l'enfant que vous étiez, Nadja?
Je ne crois pas. quand je pense à moi petite, je me reconnais. Mais, on change, on désapprend les choses.
Est-ce que vous étiez quel genre d'enfant, vous, quand vous étiez petite?
J'étais assez, comment dire, gay. plutôt calme. J'adorais m'occuper de choses dans mon coin. Parce que quand on a trois frères et sœurs, on a assez envie d'être tranquille.
Parce que là, je pense, c'est pour ça que je me marre, je pense tout de suite à l'un de vos précédents livres paru il y a plus de 20 ans, qui s'appelait Méchante. Oui. Et c'était l'histoire d'une petite fille, pas sage du tout. Vous étiez sage quand même, vous?
Ouais, j'étais plutôt du côté Camille Madeleine.
Les Fleurville, les terreurs, je les déteste. Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur.
Elles sont super
gentilles. Elles sont trop parfaites, Nadja.
Moi, je suis team Sophie. J'étais peut-être trop parfaite.
Pourquoi c'est important? Vous parliez de désapprendre, d'apprendre à désobéir également.
Oui, enfin, de désapprendre toutes les, les bêtises qu'on vous insuffle à partir du moment où on rentre dans l'âge adulte, justement. Ou qu'on croit être les vérités. Et c'est, je trouve que c'est la plupart de mon temps est occupé à essayer de m'y retrouver là-dedans. Et d'enlever ce qui est idée reçue, etc. Je sais que c'est impossible, mais j'essaie.
C'est qu'il y en a une qui désapprend dans cette émission à peu près tout et n'importe quoi. C'est la culture, évidemment, et son actualité qui ne s'en porte pas mieux pour autant. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 1er décembre ?
Je lis beaucoup, même mes parents me retiennent, parce que sinon, je vais voir les livres. Si on me laissait, j'en lirais plusieurs par semaine.
Les enfants d'abord, c'est donc aujourd'hui que s'ouvre le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Dans des conditions quasi normales, l'événement invite près de 250 auteurs, dont vous, Nadja, mais aussi Mario de Muraille, Suzy Morgenstern ou encore Serge Bloch. Au programme de cette édition déployée autour du mot « nous », une grande expo baptisée « Notre usine à nous », une chaîne de télé, un prix de la Grande Ourse pour la jeune autrice Lucie Félix et même un partenariat dans toute la France avec 140 librairies et près de 300 bibliothèques. Chouette, chouette, chouette.
Putain des potes. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs, putain d'époque.
Autre salle, autre ambiance à Rennes, c'est ce soir que débutent les transmusicales Rendez-vous Breton, des musiques électroniques et actuelles avec des jauges à 100%, l'envie toujours de mettre en avant les talents de demain. Le festival réunit 80 groupes et artistes jusqu'à dimanche. On pourra notamment headbanger devant le trio de métal féministe venu d'Indonésie, Voice of Bassprot, Sonjaillé avec le rappeur rennais Louji PK, ou encore venir découvrir les sonorités électro d'un Yann Tiersen réinventé en orateur de son privé.
C'est un peu ça notre cuisine, c'est tout. On tente toujours de réchauffer le goût de la mer par un poivre, par un piment, qui chauffe le palais, qui va vous procurer une longueur en bouche.
Il est jeune, il est beau, il est gastro, Nadja, tout juste 33 ans, le chef breton Hugo Rollinger vient d'être désigné cuisinier de l'année par le mythique guide jaune Goemio, ex-officier de la marine marchande, fils du chef Olivier Rollinger, le jeune trentenaire qui dirige les fourneaux du coquillage. Un 2 étoiles qui surplombe la côte d'Emeraude s'est imposé grâce à sa cuisine poétique et radicale, je cite, réinvention permanente des saveurs marines relevées aux herbes de son potager celtique, le tout sur fond de préservation des ressources et de l'écologie. Bon appétit. Et enfin, mercredi, Contact, cinéma compact. Aujourd'hui, dans les salles, on opte pour Le Diable n'existe pas. Le 8e long métrage de l'Iranien Mohammad Rasoulov, récompensé d'un ours d'or à Berlin en 2020, tourné clandestinement dans son pays pour éviter la censure. Le film explore en 4 récits le poids des compromissions et des soumissions dans le régime de Téhéran, qui pratique encore la peine de mort après un homme intègre et les manuscrits ne brûlent pas. Le cinéaste dissident offre un nouveau chapitre à son œuvre de la révolte et de la liberté d'expression. Un film inter, évidemment. Et l'autrice Nadja, invitée de Boomerang ce matin, pour parler de ce nouveau livre, le 2e tome des aventures du fils du Père Noël, qui se retrouve par erreur enfermé dans une boule à neige. Ce que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, Nadja?
Il était un petit peu énervant pour les lutins.
En fin de compte, ça ne tient qu'à ça. Il faut parfois mieux être sage, c'est ça.
Oui, mais en même temps, ça lui permet de vivre des aventures extraordinaires.
Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est un éloge de la désobéissance. L'univers de Noël, il vous évoque quoi à vous tout de suite sur le plan graphique? Sur le plan des couleurs aussi?
Les petites décorations dans les sapins qui brillent. Vous vous souvenez de cette magnifique image de Jean-Paul Goud avec tout une immense forêt, et au milieu il y avait un sapin qui était décoré de boules qui brillaient.
C'est de la miniature, j'ai l'impression, en vous écoutant. Qu'est-ce que vous avez utilisé d'ailleurs comme technique de peinture pour cette série-là?
Aquarelle.
Et pourquoi l'aquarelle plutôt que la gouache, justement, qu'on vous associe hein, plutôt
oui,
avec Chien Bleu?
Pour des petits dessins, c'est plus fin. C'est y a un côté léger avec cette transparence, ces couleurs très très vives qui sont oui c'est plus du coloriage.
Vous savez ce qui est frappant et c'est le cas dans plusieurs de vos livres, Nadja, je pense à votre série sur l'horrible petite princesse notamment, c'est la manière dont vous dessinez les personnages toujours avec une sorte de bec. D'où il vient ce bec?
Bah, regardez mon nez.
Ah bah, je suis pas comme ça. Tout simplement.
Je sais pas comment ça vient, le physique d'un personnage qu'on invente. Mais je crois que c'était pour le premier bouquin que j'ai fait avec mon fils qui avait 12 ans, qui s'appelait Je jure de dire la vérité sur ma classe de 6e. Et je cherchais un personnage donc qui le caractériserait, lui et ses, tous ses copains et tout. Et je voulais qu'il soit drôle. J'ai commencé à dessiner des enfants, etc. Je ne trouvais pas drôle du tout. Et tout d'un coup, j'ai commencé à dessiner un canard. J'ai vraiment dévié avec son bec. Ils étaient tous jaunes avec trois plumes sur la tête. Et c'est ça qui a déclenché ce type de personnage.
Qu'est-ce qui fait un bon dessin pour vous?
C'est un dessin où l'auteur n'a pas a oublié qu'il dessinait.
Et c'est pas forcément un dessin réaliste, ça c'est important. Dans quelle mesure raconter une histoire et la dessiner, c'est faire un pas de côté, même par rapport au réel. C'est s'autoriser peut-être le rêve, l'imaginaire dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, c'est très bizarre, parce que c'est un truc plein de contradictions. C'est-à-dire que plus on est collé à son réel, à ce qu'on est soi-même, meilleur le dessin est. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, pour être soi-même, il faut pas coller au réel. C'est curieux. C'est complètement paradoxal comme situation.
Le rêve, je le mentionnais, il est partout chez vous, Nadja, en filigrane, dans Le fils du Père Noël est kidnappé, absolument central, dans ce livre que je mentionnais tout à l'heure, Le fil d'Ariane. Dans quelle mesure vos rêves constituent-ils la matière de vos livres ?
Dans une grande mesure, même jusqu'au point où il y a plusieurs de mes livres qui ont été que j'ai fait à cause de rêves que j'ai fait et que j'ai notés et dont j'ai trouvé que c'était qu'ils étaient tellement construits que ça méritait d'être d'en faire une histoire et en me disant que c'est pas que ce que je rêve moi n'intéresse pas forcément les autres, mais si je les rêvais par contre, c'est que c'est très profondément vrai par rapport à moi-même. Donc, qui dit vrai pour moi, dit vrai pour tout le monde.
Mais c'est intéressant parce qu'on vit pas forcément dans une époque qui est propice aux rêves, si.
Je sais pas ce qu'il vous faut. Quand on est très attaché, quand on est lié de partout, à mon avis, on a besoin de rêver, ouais.
Où est-ce que vous vous sentez la plus encline à rêver, la plus disposée à rêver? À quel moment?
À part tout le temps, vous voulez dire?
Et vous le savez quand vous êtes en train de rêver, Nadja?
Oui, parfois même je peux interrompre mon rêve, je peux dire que je veux rêver la même chose le lendemain. Bon, ça marche pas toujours.
Bah, c'est-à-dire que ce qui est beau, c'est qu'on contrôle rien.
Oui, c'est justement ça, oui. Exactement.
On va y revenir ensemble.
Mais quel mystère!
Ouais.
On se couche en fait comme on va au cinéma. Qu'est-ce qui va se passer cette nuit?
En rêve, ensemble, avec un titre que vous m'avez soufflé, d'Otis Redding, qui s'appelle Come to Me en 1964. Vous êtes sur France Inter avec Nadja, vous écoutez Boomerang le jour où s'ouvre le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et vous êtes un enfant. Come to me, oh I'm lonely. Come to me, for I'm lonely. Come to me and be my girl, for I love you so. Come to me, forget the past. Think of life we have ahead. Come to me and be my girl, for I love you so. The days are getting so lonely, and my talk getting so. Oh,
Rambé. Come to me, Rambé.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Vous savez qu'on est, en fait quelque part entre la grande prêtresse, Antigone, Yasmina Reza et la reine des Amazones. Avec cette fougue, cet air de défi dans le regard, ces cheveux crinières insolentes, vol au vent, et toujours cette façon hyper décontractée de vous parler en même temps, elle en impose tout en noir avec sa doudoune. Derrière elle, l'autrice Nadja, invitée de Boomerang ce matin pour parler de dessin, de peinture, d'écriture aussi. J'aimerais qu'on revienne sur cet album qui m'a impressionné, on l'a compris, à savoir Le fil d'Ariane, en sélection officielle au Festival d'Angoulême, un livre dans lequel vous nous racontez, par une succession de récits gigognes, ce que c'est que de raconter une histoire, en fait. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire pour vous, Nadja?
Je me suis rendu compte, avec ce livre, en fait, que pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire que je ne connais pas encore. Et que je déroule, au fur et à mesure que je l'écris, je la découvre. C'est... Alors qu'on peut parfois avoir l'impression que on applique simplement une facilité à l'écriture à des idées qu'on a déjà eues. Déjà, c'est une histoire de temps, en fait, de temps présent, passé. Et mon obsession, c'est de faire un livre dans le temps présent, c'est-à-dire qu'il se fasse en même temps que j'y pense.
Alors c'est passionnant parce que là vous reprenez en même temps une histoire mythologique, celle d'Ariane, de Thésée et du Minotaure, qui est une bonne histoire pour autant, même si elle n'est pas nouvelle.
Bien sûr, mais voilà, c'est une façon aussi de souligner les mondes parallèles entre le présent et le passé.
Oui, et une histoire, on peut s'y intéresser aussi sous un autre angle, toujours, à partir d'un autre point de vue. En l'occurrence, ici, celui d'Ariane.
Oui, l'Ariane auteur ou l'Ariane mythologique? Parce qu'il y a plusieurs Arianes qui sont en question. Et il y a un autre personnage qui est une sorte d'observateur qui suit une enquête. Donc, c'est un récit avec plein d'entrées différentes et des temps différents. C'est ça qui m'a plu.
Et il y a ce fil, le fameux fil d'Ariane. Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous, ce fil qui permet à Thésée de sortir vivant du labyrinthe où il a affronté le Minotaure? Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous?
Le fil est un truc qui me fascine parce que chaque fois que j'y pense, je découvre une nouvelle façon de le définir. Il y a le fil des rêves, le fil des pensées, le fil de l'eau, le fil du temps.
Le fil de la narration.
Le fil de la narration, bien sûr. Et vraiment, quand on écrit une histoire, et le fil, enfin, quand on dessine ou quand on écrit, ce qui sort du stylo a l'air aussi d'un fil.
Ouais.
Enfin, je veux dire, c'est des choses physiques et mentales qui sont toujours une histoire d'avancer quelque part, de chemin, de tissage aussi.
Oui, sauf qu'on peut le perdre, le fil.
Et on peut le perdre, il peut être coupé. Je veux dire, les parcs n'y sont pas pour rien. C'est un embrouillamini, le fil.
Oui. Ça vous arrive souvent de le perdre, le fil, vous?
Oui.
Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il se passe quoi?
Je laisse faire un peu les choses de façon à ce que... Vous savez, c'est comme quand on essaie de débrouiller un amas de fils, justement, emmêlés. Si on commence à tirer les trucs, c'est absolument fini. Alors que si on le laisse reposer et qu'on, très doucement, on laisse les choses sortir l'une après l'autre, le fil peut se désemmêler.
Ça m'évoque ça. L'idée de se perdre. L'héroïne du fil d'Ariane, elle se perd, tout comme la petite fille de Chien Bleu, d'ailleurs, se perdait dans la forêt.
Oui, je pense qu'on on se perd et c'est un bien, mais on a envie aussi de se retrouver. Donc c'est aussi un paradoxe, mais c'est toujours quelque chose dans la perte qui est intéressant.
Et de retrouver les autres aussi, peut-être. En quoi oui. Écrire, Nadja, c'est peut-être ça, justement, aller à la rencontre des autres.
Oui, je vais... Je lis le texte là maintenant ou après? Non, c'est après. Non,
mais c'est bien, vous m'avez vu venir.
Oui. Oui, c'est aller à la rencontre des autres. Moi, j'étais plutôt timide comme fille. Et c'est une façon aussi, je pense, pour moi, de... de parler aux autres sans être forcément face à eux. Et aussi, comme j'adorais par-dessus tout lire, il m'a semblé... Enfin, je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu envie d'écrire aussi.
Alors, vous nous avez écrit un texte ce matin, effectivement, que vous allez nous lire sur une musique que vous avez choisie. On lance le boomerang ?
Oui.
On lance le boomerang.
J'écris des histoires pour les enfants et aussi des histoires pour les adultes. Il n'y a pas grande différence entre les unes et les autres. Sauf qu'avec les enfants, c'est moi l'adulte et je suis responsable d'eux. Je leur dis, le monde est terrifiant, mais il y a des choses belles, drôles, intéressantes et tu t'en sortiras. Je lui montre qu'il a en lui des forces qui l'aideront à être lui-même et à atteindre le bonheur. Avec les adultes, je n'ai plus cette position. Je n'ai pas plus la responsabilité de l'autre que l'autre vis-à-vis de moi. Je suis libre de me tromper, d'avoir des doutes, avec le risque qu'ils me disent « c'est n'importe quoi ce que tu dis ». On est à égalité. Moi, je suis là pour distribuer les cartes, comme au poker. C'est ça mon boulot. Je ne sais pas ce qu'il en fera. Je ne sais pas non plus ce qu'il y aura pour mon jeu à moi. C'est très excitant et dangereux à la fois. Chacun est l'objet de l'autre. On se confronte, on se mesure, on va se promener ensemble. Pour moi, c'est comme une invitation. Enfant, j'avais une vie très protégée, presque isolée socialement. J'étais à la fois terrorisée et très tentée par l'extérieur. Et finalement, j'avais envie d'ouvrir la porte et d'aller jouer avec les autres dans la cour. Et c'est exactement ce que je fais en écrivant des livres. J'ouvre la porte et je dis « Tu veux jouer avec moi ?» En fait... En faisant des livres pour adultes, je suis redevenue enfant et j'adore ça.
Vous savez, vous avez une voix extraordinaire, Nadja. Qu'est-ce qu'elle raconte, à votre avis, cette voix ?
À part les cigarettes, vous voulez dire ?
Votre texte, ce texte, il nous parle de la littérature comme un art de l'imprévisible. J'ai l'impression, c'est ce que vous nous dites.
Oui, oui, je pense que c'est, pour moi, c'est ça, oui. C'est le mystère, oui, de ouvrir un livre, c'est comme ouvrir une porte, c'est-à-dire et rentrer dans un monde qu'on connaît pas. Bon, quelquefois c'est moche, on referme la porte.
Oui, vous nous parlez du monde extérieur qui, plus petite, vous terrorisait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur?
J'ai peur de la bêtise, en fait. J'ai peur que les gens s'éloignent d'eux-mêmes.
Ah, mais ce sont les portes fermées, ça.
Oui.
Est-ce que l'écriture permet de conjurer ces peurs, justement ?
Oui, je pense. Je pense que c'est l'écriture, c'est la façon de mettre en dehors de vous des choses, de façon à ce que les autres s'en emparent. Et c'est un flambeau qu'on se passe les uns aux autres éternellement.
Ah, ça s'éteint jamais.
Non.
Et c'est un flambeau qu'on partage.
Oui.
En famille aussi.
Ah oui.
Toujours. Merci tellement, Nadja, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que le fils du Père Noël vient de paraître à l'école des loisirs et que vous serez peut-être dimanche en dédicace à Montreuil au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Je précise aussi que le Jardin d'Ariane, ainsi que cet autre merveilleux livre d'images pour adultes, Le Fil d'Ariane, récit d'une trahison, sont publiés aux éditions Actes Sud. Ce dernier, je le disais, est en lice pour le Fauve d'Or d'Angoulême. Ce serait beau. Je dis ça comme ça, je pose les choses. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Romaï et 9h40 sur France Inter, exactement. Sonia Deville, l'instant M. Salut, chère Sonia.
Salut, cher Augustin. Ben, à demain.
À demain.
Salut.